Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet, notre magazine du mois de mars-avril, dont le dossier est consacré à la géopolitique de la peur. Vous pouvez également retrouver les chroniques habituelles ainsi qu'un long article sur l'importance des semi-conducteurs et des rivalités aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis autour des semi-conducteurs. Conflit est donc à retrouver en kiosque et sur le site internet de Conflit où vous pouvez également retrouver les anciens numéros que vous pouvez acquérir soit au format papier, soit au format numérique. Et puis aussi vous abonner à Conflit. En vous abonnant, vous nous permettez de poursuivre l'aventure de Conflit et de vous proposer différents contenus, notamment ces podcasts que vous pouvez retrouver chaque semaine. Eh bien, nous allons partir en Europe cette semaine et plus précisément au Kosovo pour aborder l'histoire de cette région, mais également son actualité, parce que évidemment, pour comprendre la géopolitique, il faut sans arrêt aller de l'actualité à l'histoire. Et pour évoquer le Kosovo, je reçois Nicolas Mirković. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez dans l'humanitaire, notamment dans des ONG, dans des associations caritatives, et vous venez de rééditer un ouvrage, la troisième édition du Martyr du Kosovo, que l'on peut trouver chez France Empire. Toutes les références du livre sont également à retrouver sur le site internet de Conflit. Troisième édition de ce Martyr du Kosovo, ce qui montre aussi l'intérêt du public français pour ce sujet. Alors, on va évoquer donc l'importance du Kosovo, évidemment par rapport à la Serbie, par rapport aux Balkans, par rapport à l'Europe aussi, les plus anciens, si je puis dire, enfin tout le moins ceux qui ne sont pas étudiants aujourd'hui se souviennent de la guerre de 1992, notamment du siège de Sarajevo qui avait été terrible, et puis il y a eu ensuite la guerre proprement dite au Kosovo dans les années 2000, des choses qui avaient beaucoup marqué la région et l'Europe, même si l'Europe et notamment la France avaient été passablement absentes de ce dossier. Alors, avant de voir la situation du Kosovo aujourd'hui et la situation géopolitique et politique, notamment par rapport à la Serbie, je voudrais revenir, Nicolas Mirković, sur l'histoire de cette région qui est finalement peu connue en France et en Europe notamment. Et pourquoi est-ce que le Kosovo est aussi important pour la Serbie? Ce que vous montrez notamment dans votre ouvrage, c'est que le Kosovo est le bassin historique culturel de la Serbie.
Merci beaucoup pour votre invitation. Oui, en effet, pourquoi est-ce que le Kosovo revêt tant d'importance? À vrai dire, aujourd'hui, on est en train de parler d'un territoire de 11 000 km², c'est assez petit. Pourtant, pour les Serbes, c'est un territoire extrêmement important puisque c'est autour de la plaine du Kosovo, non pas d'un pays, on parle à l'époque, au Moyen-Âge, non pas de pays ou de région, mais d'une plaine du Kosovo, que la nation serbe a été bâtie. Les Slaves sont arrivés dans la région vers le 6e, 7e siècle, donc on est au sud de l'actuelle Serbie, donc au sud des Balkans, pas loin de l'Adriatique. Les Serbes ont constitué une des nations les plus importantes à l'époque du Moyen-Âge. Donc on parle déjà au milieu du 14e siècle de l'empire du Serbe, des Grecs et des Albanais, de l'empereur Dušan. C'est un royaume qui va aller quasiment de l'Adriatique jusqu'à la mer Noire, qui va s'étendre vers les limites septentrionales des Balkans, une nation très importante. Et donc du coup, avec une richesse culturelle, religieuse, autour de cette fameuse plaine du Kosovo, eh bien, on va retrouver non pas des centaines, mais des milliers d'églises, de chapelles, de lieux de culte. Le peuple serbe est un peuple, comme la plupart des peuples européens, éminemment chrétien. On va retrouver à Prizren, la capitale du royaume serbe, donc Prizren qui est une ville qui se trouve aujourd'hui dans le sud de la Serbie, et un grand malheur va arriver pour les Serbes. Au XIVe siècle, on va avoir, au milieu du XIVe siècle, on va avoir l'arrivée de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman va progressivement détruire ce royaume serbe, va conquérir les territoires serbes, donc ça va se faire sur quasiment une centaine d'années, et va progresser lentement dans sa conquête des Balkans, aller vers Vienne. Pendant, ça dépend des régions où vous êtes dans les Balkans, mais entre 100 ans et quasiment 5 siècles, des Serbes ont subi la domination ottomane. Et au début du XXe siècle, dans les deux guerres balkaniques, 1912 et 1913, les Serbes alliés aux Macédoniens, aux Grecs, aux Bulgares vont faire fuir l'Empire ottoman. Mais qu'est-ce qui a permis aux Serbes de résister pendant autant de temps à la dureté de la domination ottomane? Eh bien, c'est l'histoire de ce qui s'est passé autour de la plaine du Kosovo. Et les Serbes vont entretenir, et ça a été tracé par de nombreux historiens, des spécialistes, Grimm, Mickiewicz, le Vates polonais, ont admiré les chants, les poèmes épiques des Serbes. Les Serbes vont se souvenir qu'au Kosovo, lors d'une fameuse bataille, donc du coup en 1389, eh bien, ils ont perdu contre les Ottomans, mais le prince Lazare, le responsable, le patron, on va dire, des Serbes, le chef des Serbes, dit que lui, il préfère se battre pour le paradis, le royaume céleste, plutôt que le royaume terrestre. Il va partir avec toute sa chevalerie, qui va être d'accord avec lui, ils vont partir se battre contre l'Empire ottoman. Parce que le Serbe est défini lors de cette bataille du Kosovo, c'est qu'on n'abandonne pas ce qu'on est. Les Ottomans avaient proposé de vivre comme dhimmi dans l'empire, de se soumettre à l'islam si vous voulez vivre une vie agréable dans l'empire ottoman, c'est-à-dire avoir accès aux terres, avoir une certaine forme de liberté, de posséder les armes. Les Serbes ont dit qu'ils ne voulaient pas, ils n'avaient pas cette vision ils voulaient pas de trahir parfois, ils voulaient apostasier. Ils ont préféré aller à la guerre. Et pendant donc du coup quasiment jusqu'à 5 siècles pour certains Serbes, on va se souvenir de ce sacrifice de l'élite serbe qui dit qu'un Serbe ne trahit pas. Un Serbe se bat pour sa foi et se bat pour ses traditions. Et donc du coup les Serbes vont entretenir ça. Et toute la littérature nombreuse qui existe sur ces poèmes épiques, sur ces chants épiques, sur ce qui a galvanisé les Serbes qui se sont soulevés de très nombreuses reprises pendant ces siècles d'occupation, va tourner autour de ce qui s'est passé au Kosovo. Donc on a des chants sur le Kosovo parce qu'on se souvient que le peuple serbe a affronté un des empires les plus importants de tous les temps, a certes perdu, militairement c'était une défaite, même si on a cru en Europe de l'Ouest que c'était une victoire, les cloches de Notre-Dame ont sonné pour célébrer la victoire des Serbes, tellement il y avait d'Ottomans qui avaient été tués pendant la bataille, et que le sultan Mourad Ier lui-même a été assassiné pendant cette bataille, pour autant c'est une défaite militaire, puisque le royaume, l'empire serbe n'était pas assez important pour affronter les Ottomans. Et donc, on va entretenir ça. Et le Kosovo, si vous voulez, vous avez donc le siège de la capitale de la Serbie historique. Vous avez tous ces monuments, des monastères qui sont éparpillés à travers le Kosovo. Et c'est ce qui a motivé les Serbes pour se battre pour leur liberté. Et c'est pour cela que cette région est très importante pour les Serbes aujourd'hui. C'est pas tellement une vision territoriale, c'est pas ça ce qui les intéresse, que le symbole de la résistance, parce que s'ils avaient apostasié, s'ils avaient définitivement perdu contre les Ottomans, le peuple serbe n'existerait plus. Si vous voulez, ça fait partie de ces actes fondateurs qu'il peut y avoir chez certains peuples, qui définissent le peuple, qui définissent les orientations, qui définissent ce que le peuple est, et sur dans cette bataille du Kosovo et autour de la mémoire de ce qui s'est passé, de la chevalerie qui se bat, qui n'apostasie pas, eh bien les Serbes ont forgé une identité qui a permis à ce peuple de traverser les siècles encore aujourd'hui. Et cette situation est une situation qui est devenue particulièrement compliquée pour les Serbes, parce que sous l'occupation ottomane, vous avez des Serbes étaient majoritaires. On a ce qu'on appelle des defters, c'est-à-dire des recensions du territoire, de ce qui représente ce territoire à l'époque du Kosovo tel qu'on l'entend aujourd'hui. Les Serbes sont majoritaires, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais à partir du XVIIe siècle, les Albanais, qui étaient également un peuple chrétien, qui ont lutté contre la domination ottomane, eh bien, les Albanais ont petit à petit commencé à se convertir à l'islam. Ils ont eux-mêmes commencé à apostasier. Et au fur et à mesure que les Serbes se révoltaient contre les Ottomans, ils étaient ou massacrés ou pourchassés. Au XVIIe siècle, on a la Velika Seoba, où vous avez des milliers de familles serbes et albanaises qui quittent la région. Et ces Serbes et Albanais sont remplacés par des Albanais fraîchement convertis à l'islam.
Les Albanais, ce sont des Slaves, donc, d'origine ?
Non, ce ne sont pas des Slaves. On ne connaît pas tellement l'origine des Albanais. C'est un, le peuple, les Albanais eux-mêmes s'appellent Shqiptar. Le terme Albanais apparaît pour la première fois dans, des chroniques historiques au Moyen-Âge, vers le 11e, 12e siècle. On ne sait pas exactement d'où ils viennent. Au niveau génétique, ils n'ont pas du tout les mêmes gènes que les Serbes. Alors, il y a différentes théories. Certains disent qu'ils viendraient du Caucase, d'autres... on ne sait pas exactement. Leur langue est clairement une langue indo-européenne. Mais on ne sait pas exactement à partir de quel moment ils sont apparus dans l'histoire. On pense que c'est plutôt des tribus, des montagnes dans l'actuelle Albanie qui n'avaient pas d'État, qui était un peuple comme il y avait des centaines, peut-être même des milliers de peuples en Europe à cette époque-là, qui n'était pas un peuple guerrier, une des raisons pour lesquelles on n'entend pas parler trop dans les chroniques, mais qui était un peuple de la région, mais qui venait de ce qu'on appelle actuellement le territoire de l'Albanie.
Alors, la défaite, la bataille du champ des Merles que vous évoquez a lieu le 28 juin 1389. Et ce 28 juin, ce jour est important parce que ça explique aussi pourquoi il y a eu l'assassinat de l'héritier de l'Empire austro-hongrois à Sarajevo le 28 juin 1914. C'est que ça, c'était aussi pour ceux qui ont perpétré cet assassinat. Une manière de rattacher l'histoire à l'histoire et de commémorer cette bataille du champ des Merles.
Tout à fait, je pense qu'on se rend pas compte, parfois les gens peuvent se dire mais qu'est-ce que c'est que ce peuple qui quand il y a eu la guerre des années dans les années 90, un chroniqueur, un journaliste américain avait dit méfiez-vous d'un peuple qui célèbre, méfiez-vous de la grandeur d'un peuple qui célèbre une défaite au Moyen-Âge. Ce combat pour le Kosovo, ce combat pour l'indépendance est vraiment quelque chose qui est inscrit dans l'identité serbe, de l'école jusqu'à la vie quotidienne aujourd'hui. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas du Kosovo parce que du coup, c'est le symbole de la liberté. Quand vous êtes un peuple qui a résisté à quasiment 5 siècles d'occupation, ça laisse des traces extrêmement importantes. Et donc, cette date du 28 juin est une date qui est évidemment célébrée. Ça n'est pas la fête nationale, mais c'est une date qui est une des dates qui est quasiment plus importante que la fête nationale parce que elle a défini aux yeux du monde entier, des Balkans et de la région, quel était le choix du peuple serbe de ne pas apostasier, de rester fidèle à sa tradition, de se battre pour sa liberté. Et même si c'était un grand peuple, c'est le peuple le plus important numériquement des Balkans occidentaux aujourd'hui, eh bien, ce peuple a décidé de se battre pour cette date, et on retrouve ça tout au long de l'histoire, parce que après l'Empire ottoman, vous avez eu, malheureusement, la Première Guerre mondiale, vous avez donc le problème, et on le reverra plus tard, de l'ingérence des pays occidentaux dans la région balkanique, avec une méconnaissance de la région. Ce qui a galvanisé le nationalisme albanais, c'était la volonté des Autrichiens, des Austro-Hongrois, même à l'époque de la Première Guerre mondiale, d'affaiblir les Slaves du Sud. Donc du coup, pour affaiblir les Slaves du Sud et voir les Balkans comme un territoire de conquête, eh bien on va galvaniser les Albanais, comme on va, les faut pas oublier que les Austro-Hongrois se sont accaparés la Bosnie-Herzégovine, qui est une terre historiquement serbe, qui était peuplée que de Slaves. Il y avait des Germains, des colonies germaines qui étaient germaniques qui étaient assez importantes, mais le peuple majoritaire était un peuple slave. Et donc c'est lors de ce 28 juin que, en effet, Gavrilo Princip va abattre l'archiduc François Ferdinand, parce que les Serbes disent, lors de la redistribution des terres à la fin de la Première Guerre mondiale, vous avez en effet reconnu, vous avez en effet permis aux Serbes de récupérer des terres historiques sur lesquelles vivent majoritairement, ou en tout cas en grande partie, des Serbes, mais vous avez fait la moitié du travail puisque vous avez donné des terres serbes à d'autres puissances, et notamment à l'Empire austro-hongrois. Et le Serbe, dans la région, dit « mais moi je me bats pour ma liberté ». Donc du coup, il va continuer le combat jusqu'à ce qu'il récupère toutes les terres sur lesquelles habitent des Serbes.
Alors, on va aborder la question plus récente, notamment des guerres qu'il y a eu dans les années 1990-2000. Avant cela, je voudrais revenir sur la question de la Yougoslavie, parce que ça fait partie aussi du drame du Kosovo, l'implosion de la Yougoslavie au début des années 1990. Donc la Yougoslavie est fondée après la Deuxième Guerre mondiale, elle rassemble les Slaves du Sud, c'est le nom du pays, et là on a des Serbes, des Croates, des Slovènes, des Bosniaques, donc un mélange de différents peuples, dirigé par Tito, qui d'ailleurs lui-même est d'origine croate et slovène. Quelle est la place du Kosovo dans la Yougoslavie? Est-ce que c'est une région autonome? Est-ce que c'est fait partie d'un autre ensemble un peu plus vaste? Quel est son statut juridique?
Alors, on a deux Yougoslavies, à vrai dire. Il y a une Yougoslavie monarchiste qui naît après la Première Guerre mondiale, qui voit le jour, qui s'appelle d'abord Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, qui devient Royaume de Yougoslavie en 1929. Malheureusement, la région est extrêmement pauvre. Elle a été complètement appauvrie pendant la Première Guerre mondiale. 20% de la population serbe meurt, 20% après la Première Guerre mondiale. Donc, vous imaginez les Serbes qui ont subi jusqu'à 5 siècles d'occupation ottomane, qui ensuite tombent sur la Première Guerre mondiale. Les fondations de la première Yougoslavie n'étaient pas assez profondes. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez la résistance au nazisme et titiste, donc communiste et monarchiste, qui se font face à face. Les communistes gagnent, soutenus, je le rappelle, encore assez important pour comprendre la région, par les Occidentaux. Le fils de Churchill lui-même est aide-de-camp de Tito, on le dit pas. Et Tito, lui, est né dans l'Empire austro-hongrois, c'est un croato-slovène, et lui a peur d'une seule chose dans sa Yougoslavie titiste, c'est la puissance serbe. Parce que les Serbes constituent, comme on le disait, le peuple le plus important de la région. Les Serbes ont une tradition. Les Serbes, la moitié des Serbes, une bonne partie des Serbes en tout cas, s'est opposée à la résistance communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu ces fameuses deux résistances. Donc du coup, il sait que ça va être un peuple difficile à gérer. Un des intellectuels de la Yougoslavie communiste, le penseur de Tito, Edouard Kardelj, qui est un Slovène, lui dit que pour avoir une Yougoslavie forte, il faut une Serbie faible. Donc tout va être fait pour affaiblir la Serbie, pour calmer l'identité serbe, pour condamner la glorification du passé serbe. Tito va entre autres créer deux régions autonomes dans les années 70, en Voïvodine, au nord, où vous avez une minorité importante d'Hongrois, et au Kosovo. Et le Kosovo, donc du coup, il crée une région en 1974, région autonome du Kosovo, au sud de la Serbie, et il est important de noter qu'à cette époque-là, le Kosovo est déjà majoritaire, de ce qu'on appelle nous aujourd'hui Kosovo. Donc du coup, quand on parle de Kosovo aujourd'hui, on parle d'un territoire dont les frontières ont été dessinées par Tito dans les années 70. Et cette région est déjà majoritairement peuplée d'Albanais. Avant la Première Guerre mondiale, on est dans une situation où c'est à peu près moitié-moitié, où les Albanais commencent à être très importants dans la partie occidentale du Kosovo, qui s'appelle la Métochie. C'est important parce que la Métochie, ça veut dire terre d'église. C'est le nom historique de cette région. Et dans la partie, ce qu'on appelle aujourd'hui le Kosovo, la partie orientale, elle est majoritairement habitée de Serbes. Mais avec l'occupation du Troisième Reich, où de nombreux Serbes ont été expulsés du Kosovo, et les Albanais vont être, le nationaliste albanais vont être alliés de Berlin. Eh bien, de nombreux Serbes vont partir. Et quand Tito prend le pouvoir, eh bien, les persécutions contre les Serbes vont se poursuivre. Et donc, petit à petit, de nombreux Serbes vont fuir de nouveau le Kosovo. Tito va interdire aux Serbes qui ont été chassés, donc il y a eu une division SS qui s'appelle Skanderbeg, une division SS d'Albanais qui a tué plus de 10 000 Serbes pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'en parle pas. De nombreux Serbes ont quitté le Kosovo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tito va aller interdire à ces Serbes de revenir au Kosovo. Et il va tout faire pour galvaniser le nationalisme albanais. Le grand rêve de Tito était de faire un État qui n'était pas 100% slave. Tito aurait bien voulu intégrer l'Albanie dans la Yougoslavie, et il n'y arrivera pas. Enver Hoxha en Albanie n'était pas du tout de cet avis-là, mais il va faire en sorte que le Kosovo soit une espèce de terre idéale pour les Albanais dans les Balkans. Ce qui fait que de nombreux Albanais vont même quitter l'Albanie pour aller s'installer au Kosovo, où Tito permet créer une université en langue albanaise, des médias en langue albanaise. Les Albanais du Kosovo vivent mieux que les Albanais d'Albanie, ce qui va évidemment créer un flux migratoire supplémentaire. Au fur et à mesure que ces Albanais vont arriver, eh bien, de nouveau des Serbes qui vont être chassés. Et on va arriver dans les années 80 avec une situation où les Serbes ne représentent plus que 20% du territoire. La stratégie de Tito marche, puisque du coup, les Serbes les Serbes n'osent pas trop en parler. C'est un sujet qui est connu à Belgrade, mais c'est un sujet qui est tu, puisque la Yougoslavie, le mot d'ordre, le slogan de la Yougoslavie, c'est Bratstvo jedinstvo, c'est-à-dire que la fraternité et l'unité, eh bien, c'est pas possible que des peuples frères se battent ensemble. Mais dans les années 80, les Albanais, eux, que veulent-ils? Ils ne veulent pas du tout être des Yougoslaves. Même si on leur a donné beaucoup plus d'avantages au Kosovo qu'il en avait en Albanie, eh bien, eux veulent rattacher le Kosovo à l'Albanie. C'est leurs intérêts. Même des Albanais membres du Parti communiste tirent la sonnette d'alarme du Parti communiste yougoslave en disant, mais les Albanais sont en train, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de créer les prémices d'une sécession pour se rattacher à l'Albanie. Alors, en 1980, il y a des manifestations très importantes où les Albanais veulent plus que l'autonomie. Ils vont brûler, des Albanais vont brûler le patriarcat de Peć, donc du coup qui est un des plus grands monuments des Serbes. Évidemment, le patriarcat de Peć, qui est donc du coup le siège de l'église autocéphale serbe, patriarcat, bâtiment qui date du Moyen-Âge, des Albanais extrémistes vont le brûler. Et là, dans les années 80, si vous lisiez la presse occidentale, Le Monde, le New York Times, The Economist, vous verriez qu'on parle de l'ostracisme qui est pratiqué contre les Serbes du Kosovo. À Belgrade, on le sait, mais on n'en parle pas. La presse occidentale le voit. Les Serbes, il y a de nombreuses attaques contre les religieux, contre les Serbes, ils sont une minorité, et les Albanais sont en conquête territoriale. En 1878, lors du congrès de Prizren, les Albanais se sont jurés de récupérer toutes les terres qu'ils avaient sous l'Empire ottoman.
Et effectivement, alors on va y revenir sur cette question de la désinformation qui est véritablement prégnante. Alors toute guerre subit une désinformation, mais enfin dans ce cas-là, ça a été quand même particulièrement marqué. Donc il y a la guerre de Yougoslavie proprement dite dans les années 1990 qui aboutit à l'indépendance des différents territoires, donc Bosnie, Serbie, Croatie, Slovénie. À ce moment-là, dans la Serbie, on a donc le Kosovo et le Monténégro qui sont intégrés à la Serbie. Et le Monténégro devient indépendant plus tard, en 2006. Et ensuite débute un autre mouvement qui est typiquement serbe, enfin autour de la question du Kosovo, avec notamment les bombardements otaniens dans les années, enfin la fin des années 1990, 96, 99. Pour quelles raisons les États-Unis bombarde Belgrade et la Serbie à la fin des années 1990?
Pour deux raisons. D'abord, à cette époque-là, les Américains ont bien vu, nous savons tous que le mur de Berlin est tombé, que l'URSS est morte le jour de Noël en 1991, et les Américains, les néoconservateurs américains, donc du coup qui croient en la suprématie du modèle américain, du modèle libéral américains, qui sont adossés à ce que Eisenhower lui-même avait appelé
complexe militaro-industriel.
Voilà, le complexe militaro-industriel, et pensent que ça y est, l'Amérique a gagné la victoire des idées. Ils le disent eux-mêmes, nous avons gagné la guerre froide. Fukuyama lui-même part de la fin de l'histoire, et les Américains veulent intégrer tous les pays de l'ex-bloc communiste dans le giron Atlantis. Donc du coup, dans l'ordre, ça veut dire une intégration de tous ces ex-pays communistes, d'abord dans l'OTAN, très important de noter, et ensuite dans l'Union européenne. Et c'est ce qu'ont fait la plupart des pays, les Pays-Baltes, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie vont se disloquer pacifiquement et vont intégrer chacun leur tour l'OTAN puis l'Union européenne. La Yougoslavie voit ça de loin, elle a toujours gardé un esprit de neutralité qu'elle veut maintenir, puisque la Yougoslavie, même titiste, a travaillé aussi bien avec Moscou qu'avec Washington, et la Yougoslavie n'est pas traversée par les élites n'ont pas cette idée de rentrer dans le giron atlantiste, ils veulent rester indépendants. Les Américains ne veulent pas de cette situation. Pour eux, l'Europe, c'est ce que dit Zbigniew Brzezinski dans le
grand échiquier.
Voilà, il dit que, l'Europe est un protectorat américain. Et donc là, il n'y a pas de place pour d'autres modèles que le modèle atlantiste. Et donc la Yougoslavie, elle va dire, très bien, c'est intéressant, faites ce que vous voulez, nous respectons la liberté de chaque peuple de choisir son issue, c'est pas notre choix. On le sait, aujourd'hui, il va y avoir une ingérence étrangère importante pour galvaniser les peuples des Balkans les uns contre les autres. Alors, on peut pas juste pointer les Américains du doigt en disant que c'est leur faute. Il y avait un terreau qui était fertile. les cicatrices de la Deuxième Guerre mondiale n'étaient toujours pas guéries. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, bosniaques musulmans, albanais étaient du côté du croate, étaient du côté du Troisième Reich, et des massacres importants qui ont été commis contre les Serbes. Les Serbes ont également commis des massacres. C'était une guerre civile, une guerre fratricide. Les peuples de l'ex-Yougoslavie sont très proches. La langue est quasiment la même, on est sur des diphtongues près, quelques mots de vocabulaire. La langue est la même, la culture est la même. Ce sont des peuples qui sont quand même assez purs, ou en tout cas pour lesquels la religion est importante. Et ces guerres fratricides sont les pires. Ce sont les pires parce que du coup chacun est un traître par rapport à soi. Et donc du coup, on sait que les Atlantistes, on sait déjà dès les années 80, voulaient disloquer la Yougoslavie. Ils ont tout fait pour. La guerre de Bosnie aurait pu être évitée. Il y a eu d'ailleurs un accord qui a été signé entre les responsables catholiques, orthodoxes et musulmans pour schématiser au début des années 90. Et quand Alija Izetbegović, le responsable des musulmans de Bosnie-Herzégovine, rentre avec le document signé des trois parties, il rencontre en 91 l'ambassadeur Warren Zimmerman des États-Unis. Il sort de l'ambassade et il dit qu'il retire tout de suite sa signature. Il ne veut plus du tout de cet accord de paix entre les différents peuples, et quelques semaines plus tard est déclenché la guerre en ex-Yougoslavie. Les Américains veulent récupérer le territoire. Et quoi de mieux du coup pour soumettre une région? Et on peut pas avoir une nouvelle Yougoslavie, parce que la Yougoslavie elle-même est une région de 20 millions d'habitants, est un pays de 20 millions d'habitants, qui a sa propre production automobile, d'armement, agro-industriel qui est très importante. C'est plus facile de découper la Yougoslavie sur des lignes ethniques. Donc, le paradoxe, c'est que la Yougoslavie, qui était un pays multiethnique, va être scindée en... Les Yougoslaves, les Serbes vont être accusés de faire une guerre ethnique, alors que du coup, ce sont les Atlantistes qui vont découper la Yougoslavie sur des frontières ethniques. Ils veulent dominer la région. Donc du coup, ils ne veulent pas d'une Yougoslavie unie, ils ne veulent pas d'une Yougoslavie indépendante. C'est la première raison pour laquelle ils vont attaquer la Yougoslavie. La deuxième, c'est qu'ils ont toujours peur, enfin, on peut dire il y en a une et demie, en tout cas on va dire entre la première et la deuxième, c'est qu'ils ont toujours peur que la Yougoslavie reste proche de Moscou. Il faut pas oublier que dans le grand jeu américain, il faut affaiblir la Russie, qui est un concurrent potentiel sur le terrain américain. Donc il y a aussi cette petite raison. La troisième, c'est que l'Amérique veut donner un signal au monde. L'Amérique veut montrer à tout le monde que le jeu est terminé, que les Américains ont battu les communistes, qui sont la puissance dominante, qui vont maintenant définir les règles du jeu, et ils vont montrer ça par leur puissance militaire, au cas où d'autres pays, d'autres régions, d'autres ingénus auraient la volonté de tenir tête à Washington. Et donc du coup, ils vont déployer leur armée, donc du coup, ils vont montrer leur force militaire. C'est une excellente manière pour le complexe militaro-industriel justement de récupérer des fonds, de montrer ce qu'ils sont capables de faire, de tester les armements. Donc du coup, ça aussi, c'est un excellent moyen pour vendre d'autres armes, c'est de montrer ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Et il fallait aussi donner une justification à l'OTAN. L'OTAN qui a été créée en 1949, à 50 ans en 1999, à quoi sert-elle? C'est une organisation de défense qui a été montée pour prévenir d'une attaque éventuellement soviétique en Europe. À quoi sert-elle si l'Union soviétique n'existe plus?
C'était la grande question des 90, effectivement. Pourquoi ne pas dissoudre l'OTAN? Et cette guerre lui a permis de donner une justification et complètement d'ailleurs détournée de son but d'origine.
Exactement, puisque c'est une association de défense, et c'est au nom de l'OTAN que les membres vont attaquer la Yougoslavie, qui est un État souverain. L'OTAN n'a reçu aucun mandat de l'ONU pour attaquer la Bosnie-Herzégovine, pour s'implanter, pour attaquer la Serbie, pour bombarder le Monténégro, le Kosovo. L'OTAN a fait ça de son propre chef, en montrant aussi, dans ce nouveau monde post-soviétique, que les Américains et les organisations atlantistes pouvaient s'asseoir sur le droit international, puisqu'il n'y a eu aucun respect du droit international. Pourtant, les Américains sont à l'origine de l'ONU. De nombreux peuples étaient tout à fait d'accord pour intégrer l'ONU à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une institution dont l'objectif était de garder la paix dans le monde. Eh bien, cette institution a des règles que les Américains, les Atlantistes, n'ont pas respectées, parce que cela n'était pas en ligne avec leur stratégie pour l'Europe. Et donc, du coup, ça a permis de voir une face nouvelle des Américains que peu de personnes connaissaient, en tout cas en Europe.
Alors, il y a eu ensuite les événements de 1999 qui ont été terribles. En plus, la guerre a eu lieu en partie l'hiver. Or, c'est une région montagneuse, donc il fait extrêmement froid. Et évidemment, pour les civils, ça a été particulièrement douloureux. Cette guerre de 1999 voit aussi le départ accéléré de nombreux Serbes qui étaient dans la région, enfin au Kosovo, et ensuite la mise en place d'un mandat, enfin d'une mission otanienne, et notamment Bernard Kouchner, qui avait été nommé en quelque sorte gouverneur du Kosovo, avec une région qui a quasiment un statut autonomique, voire indépendant.
Exactement, et là, c'est là qu'on voit que dans la précipitation américaine qui se dit « on a une occasion, n'oublions pas en plus que Bill Clinton, le président américain, est dans ses frasques, en plein milieu de ses frasques sexuelles, qu'il a lui-même une procédure d'impeachment contre lui, donc cette guerre est aussi une bonne occasion pour faire oublier ça ». Et on voit dans cette précipitation que les Américains n'ont aucune politique. Ils ont, dans le nation building, ou le storytelling, je reprends des termes anglo-saxons, mais ils conviennent vraiment à ce que les Américains ont fait, et les Atlantistes, hein. Malheureusement, il faut dire la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ont suivi les Américains dans cette mauvaise aventure. Il y a une impréparation totale sur la suite. Donc du coup, une fois qu'ils ont bombardé la Serbie, et le but, on le sait, Michael Short, qui était le commandant des forces aériennes pendant l'attaque de l'OTAN, le dit lui-même que son objectif à lui, c'était de faire descendre dans la rue les Serbes, pour qui ils éjectent eux-mêmes Slobodan Milosevic du pouvoir. Le but n'était pas du tout d'arrêter la guerre, de pacifier la région. D'ailleurs, la plupart des bombes de l'OTAN sont tombées à des dizaines, des centaines de kilomètres du Kosovo, pour affecter sur des voies de chemin de fer, sur des aéroports, sur un hôpital, une maternité, sur des bus, sur l'infrastructure civile serbe. C'est elle qui a le plus souffert pendant la guerre, pas l'armée yougoslave. Avant les bombardements de l'OTAN, il y a eu 2000 morts dans une guerre civile réelle, qui était terrible. Après les bombardements de l'OTAN, il y a eu plus de 8000 morts. Dans les 10000 morts, on oublie de dire que la plupart des morts la plupart des personnes qui ont été tuées après les bombardements de l'OTAN. Et dans cette impréparation, eh bien, l'ONU nomme Bernard Kouchner, qui est un ennemi juré des Serbes. Il a fait placarder des posters de Milosevic et de d'Hitler dans les rues de Paris quand il était à la tête de son association Médecins du Monde. Il n'est pas un homme neutre pour gérer cette situation, et l'OTAN va donner les clés d'une région qu'ils vont inventer, qu'ils vont transformer en soi-disant pays, j'y reviendrai tout de suite après, aux personnes qui sont issues du crime organisé, qui ont formé ces guérilleros de l'UCK, qui est un mouvement terroriste, qui a été identifié comme terroriste, que les Américains eux-mêmes ont reconnu comme terroriste avant la guerre. C'était avant qu'ils changent leur fusil d'épaule et qu'ils se disent on va se servir de ce groupe terroriste pour affaiblir encore plus la Serbie, qui ne veut pas rentrer dans le giron atlantiste. Ces terroristes de l'UCK sont tous issus, leurs chefs en tout cas, sont tous issus du crime organisé. Hashim Tashi, Ramush Haradinaj, Hashim Tashi ont commis des crimes, sont issus de ce milieu-là, et c'est à eux que l'OTAN va donner le pouvoir. Donc ils vont se servir, la plupart du temps, quand les Atlantistes se servent d'un mouvement extrémiste pour déstabiliser une région, ils se servent du mouvement, ce sont des jeunes, et puis après, ces mouvements disparaissent pour que, on va dire, des personnes d'un autre niveau, plus habituées au monde diplomatique, à l'administration, à l'organisation, reviennent petit à petit aux commandes de la région ou du pays. Les Atlantistes vont laisser pendant plusieurs dizaines d'années le pouvoir au Kosovo aux personnes qui ne sont pas du tout formées pour l'administration, pour la diplomatie, et qui sont motivées par la haine du Serbe. Donc du coup, les persécutions contre les Serbes vont continuer. Le Bernard Kouchner n'y connaît absolument rien dans la gestion d'une administration. Quelles sont ses compétences pour gérer une zone de guerre? On peut se demander ce qui a motivé l'ONU quand ils ont fait ce choix. Pendant l'occupation, pendant la gestion de Bernard Kouchner, plus d'une centaine, 150 églises serbes que même les Ottomans ont respectées vont être détruites par les armées par les guérilleros de l'UCK. Vous avez 200 000 Serbes qui ont fui le Kosovo et la Métochie pendant la gestion de Bernard Kouchner. Naïm Miftari, qui est un ancien terroriste de l'UCK repenti, dit que pas un crime ne pouvait être commis au Kosovo sans que Bernard Kouchner soit tenu au courant. Voici les résultats de la gestion de l'OTAN. Le Kosovo est aujourd'hui un pays qui a déclaré son indépendance en 2008, mais dans les 5/7 dans les pays qui représentent les 5/7 de la population mondiale, ne reconnaissent pas l'existence. L'Espagne ne reconnaît pas l'existence du Kosovo, pas plus que la Grèce, l'Argentine, l'Algérie, la Chine, la Russie, l'Inde, le Vatican ne reconnaissent pas l'existence du Kosovo. Donc nous avons une espèce de trou noir politique créé par les atlantistes, une région qui est la plus pauvre d'Europe aujourd'hui, ce qui exporte le plus le Kosovo, eh bien, c'est malheureusement des Kosovars qui ne croient plus. Belgium Camberi, qui est un sociologue albanais, dit que le plus grand rêve des Albanais après cet épisode de 99 était de retourner habiter au Kosovo et qu'aujourd'hui le seul souhait des jeunes Albanais est de fuir cette région qui était aux mains de la mafia locale, du crime organisé. Et les Serbes sont certainement encore victimes de persécution. Un document de l'ambassade du secrétaire d'État américain d'il y a 2 ans dit qu'il y a une attaque contre les Serbes tous les 2 jours. Mais les Albanais eux-mêmes n'y croient pas parce que c'est un État mafieux. Le Kosovo est un État mafieux et donc du coup ça n'a pas répondu du tout à la demande des Albanais.
Ce que vous dites là est effectivement très important parce que on ne se rend pas forcément compte du rôle de la mafia albanaise en Europe. Alors quand on parle de mafia albanaise, évidemment ça ne veut pas dire que tous les Albanais sont dans ces réseaux-là, mais c'est une mafia qui est extrêmement bien organisée avec des liens notamment avec la mafia italienne qui est juste en face. Géographiquement parlant, donc les connexions dans le trafic de migrants, le trafic d'êtres humains aussi, la pornographie sont extrêmement forts. Et effectivement, le Kosovo est une des bases arrières de cette mafia, où à l'abri des montagnes et des regards internationaux, ils se livrent à des trafics majeurs qu'ils connectent ensuite au reste de l'Europe.
Exactement, comme c'est une région pauvre, une région pauvre qui a reçu par tête d'habitants de la part des puissances occidentales plus d'aide que l'Europe de l'Ouest avec le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Vous imaginez l'Europe de l'Ouest en 1945 et 1965, on est dans les Trente Glorieuses. Eh bien, 20 ans après le bombardement de l'OTAN, le Kosovo est pas du tout dans une période de Trente Glorieuses. Tout cet argent a été récupéré par les réseaux de crimes organisés et le Kosovo est une des régions les plus pauvres d'Europe aujourd'hui. Elle ne produit rien. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas eu d'investissement dans l'industrie, il n'y a pas eu d'investissement dans l'agriculture, il n'y a pas eu d'investissement. Les Albanais sont aussi victimes, que vous avez tout à fait raison de le souligner. La plupart des Albanais sont victimes. Le problème de l'Occident était le choix pour discuter avec les Serbes, pour discuter de l'argent, de choisir des ultranationalistes qui étaient anti-serbes et qui étaient à l'origine de la mafia. Si vous voulez inventer un nouveau pays, eh bien, vous allez normalement vous appuyer sur une élite bien construite qui a envie de faire la paix avec ses voisins, qui a envie de tourner la page. Ça passe, ce n'est pas du tout ce qu'a fait l'Occident. Et cette mafia albanaise aujourd'hui est malheureusement elle, c'est elle qui tient le pays, c'est elle qui tient le pouvoir en place. Alors évidemment, les Américains sont eux qui contrôlent, hein, tout se décide in fine à l'ambassade des États-Unis à Pristina. Mais cette mafia est très importante et malheureusement pour les Albanais, si vous enlevez le crime organisé, il n'y a plus. Dans le sens, comment est-ce qu'ils vont gagner leur vie? Il faut quand même qu'ils payent leurs charges. Si vous n'avez pas d'industrie, vous n'avez pas d'agriculture, et que personne avec l'argent qui a été versé, mais par un million dans le pays, eh bien, vous n'avez pas d'emploi, eh bien, la solution de facilité, c'est le crime organisé. Et l'Occident, les capitales, Bruxelles, Paris, Berlin, Washington, ont tous fermé les yeux. L'explosion du développement du commerce de l'héroïne en Europe s'est passée à un moment où vous aviez 40 000 soldats de l'OTAN sur ces 11 000 km² de territoire, l'équivalent de la Gironde. Donc vous imaginez, vous avez 40 000 soldats en Gironde, et pourtant, en même temps, en Gironde, vous avez le développement du trafic d'héroïne. Et je vais faire un parallèle que je fais dans mon livre. L'Afghanistan, les talibans, on peut en penser ce qu'ils veulent, c'était un régime terrible. Ils ont quand même mis fin à la culture du pavot pour en faire de l'opium. Et donc, du coup, les différentes drogues qui en découlent. Les talibans avaient mis fin. Aujourd'hui, l'Afghanistan est de nouveau un des plus grands producteurs d'opium pour faire cette drogue terrible qui gangrène une partie de la jeunesse européenne, qui est l'héroïne. Et cela s'est passé alors que vous aviez plus de 100 000 soldats de l'OTAN et des groupes militaires privés qui étaient présents en Afghanistan. Donc du coup, il y a quand même quelque chose d'assez étrange là-dedans.
Alors, pour terminer notre émission, dans votre ouvrage, vous mentionnez aussi quelques pistes possibles pour l'avenir, parce que il faut aussi regarder ce qui peut se faire dans cette région dans les années qui viennent. Pour vous, Nicolas Mirkovic, quelles pourraient être les évolutions possibles et ce qui serait souhaitable, notamment pour permettre la pacification de la région et le fait que des Serbes puissent vivre normalement et sans subir d'attaques dans leur région?
Alors, c'est une situation qui est très complexe. Pour faire simple, soit dans une première, les Serbes cèdent. Si les Serbes cèdent, c'est ce que rappelle l'Église orthodoxe serbe, c'est que les Serbes vont perdre vraiment une partie de leur âme. Il y a presque un nouveau peuple. Alors ça peut paraître dramatique, romantique, tout ce qu'on veut, mais c'est la réalité. Si vous avez dans votre culture une référence constante, ce qui vous a motivé à vous libérer d'un oppresseur qui vous a occupé pendant plusieurs siècles, et cette référence qu'est le Kosovo disparaît parce que elle ne fait plus partie de votre pays, eh bien mine de rien, eh bien vous perdez une partie importante de votre identité, de votre âme. Et le problème ne sera pas terminé parce que les velléités irrédentistes des Albanais vont au-delà du Kosovo. Le rêve depuis 1878 et pour une partie de cet ultranationalisme albanais repose sur la conquête de tous les territoires qu'ils avaient avant. C'était également des territoires en Épire, dans le nord de la Grèce. Vous avez à peu près 25% de la Macédoine aujourd'hui, Macédoine du Nord, qui est occupée par des Albanais. Vous avez des poches d'Albanais également en Serbie centrale, au Monténégro. Donc si on laisse le Kosovo devenir indépendant, ça va être juste un gage de plus donné à l'ultranationalisme albanais et qui va progressivement se dire ben, ce qu'on a réussi au Kosovo, eh bien pourquoi est-ce qu'on le ferait pas dans d'autres pays? Donc du coup, ça va déstabiliser la région. Les Serbes, évidemment, veulent garder le Kosovo et veulent le garder, comme c'était le cas. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, même la résolution 1244 de l'OTAN reconnaît le Kosovo aujourd'hui comme faisant partie du territoire serbe. Le problème, c'est que vous avez 2 millions d'habitants au Kosovo, dont la majorité est albanaise. Et donc les Serbes doivent gérer ça. Est-ce qu'ils sont prêts à avoir cette population qui a été travaillée ces dernières générations par l'ultranationalisme et qui est assez anti-serbe? Pas tous les Albanais, évidemment, mais leur élite, ceux qui sont à la tête aujourd'hui. Est-ce que vraiment on veut que ces personnes rentrent dans l'Assemblée nationale serbe? Est-ce qu'on veut qu'ils aient une puissance? Est-ce que du coup on veut reconnaître qu'en Serbie il y a 2 langues? Parce que du coup, quand vous avez une minorité qui commence à représenter quasiment 20% de la population, il faut lui laisser la place qui lui est due. Donc c'est une situation qui est pas évidente à gérer pour les Serbes et il faut qu'ils y réfléchissent. Et Albanais et Serbes ont des taux de natalité qui sont très faibles aujourd'hui. Paradoxalement, les Serbes du Kosovo ont eu un taux de natalité plus important que les Serbes de Serbie centrale et les Albanais. Mais il va falloir voir ça, parce que du coup, la situation démographique peut changer. Et au bout d'un moment, ben, une fois que vous avez reconnu que vous avez une grande minorité de 20% de population dans le pays, ils vont prendre des décisions. Et dans l'état d'esprit dans lequel ils sont aujourd'hui, ces décisions ne vont pas être en faveur de la Serbie. Il reste donc deux autres possibilités. La troisième, c'est une séparation, une répartition des territoires, et c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on donne aux Serbes? Qu'est-ce qu'on donne aux Albanais? Est-ce qu'on donne le territoire aux Serbes, là où il y a leurs principaux monuments historiques, religieux, culturels? Est-ce qu'on fait des groupes, on va dire un groupe homogène de terres qu'on remet aux Serbes, on divise les territoires? C'est une discussion qui a été en cours. L'Union européenne n'est pas favorable à ça. En tout cas, Berlin n'est pas favorable à ça. Ça pourrait avoir la légitimité pourrait se puiser une solution finale, on va dire à la région. Disons voilà, bon maintenant on n'en parle plus. Les Albanais ont récupéré une partie des terres, les Serbes une autre. On tourne la page, on passe à autre chose et tout le monde va reconnaître la situation. Ça ne veut pas dire que l'irrédentisme albanais sera tué pour autant, mais en tout cas les Serbes pourraient avoir l'impression d'avoir gagné quelque chose là-dedans, même s'il y aura toujours l'amertume de cette fait dépouillé de son territoire et qu'il peut y avoir une espèce de revanche. Le dernier point, et qui n'est pas à négliger, c'est de nouveau une guerre. C'est terrible, on ne peut pas en parler, mais si deux peuples convoitent la même terre, au bout d'un moment, si aucune solution n'est trouvée, rien n'est dit, que la guerre ne reviendrait pas, on pensait tous qu'il n'y aurait plus jamais de guerre dans les années 70, dans les années 80 en Europe. Pourtant, il y en a eu en ex-Yougoslavie. Les Américains vont peut-être pas pouvoir rester dans les Balkans, habitam aeternam, c'est eux qui contrôlent la situation aujourd'hui. Si les Américains ne pouvaient plus, pour différentes raisons internes, d'autres zones de conflit, devaient lever le pied sur les Balkans, est-ce qu'il est dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle guerre? Si vous avez en effet deux peuples qui convoitent la même terre, qu'est-ce qui se passerait? Comme je vous le disais, cet irrédentisme albanais irrite quand même énormément les Monténégrins, les Grecs, les Macédoniens, c'est-à-dire que tous les peuples qui entourent l'Albanie. Donc évidemment, c'est une situation qui n'est pas souhaitable, parce que c'est terrible, on ne se rend pas compte de ces guerres européennes, on ne dit toujours plus jamais ça, malheureusement, on voit que ça peut vite revenir, mais c'est une possibilité, et ça, malheureusement, ça peut arriver que parce que, eh bien, la solution imposée par les Atlantistes, par l'OTAN, par les Américains, est une solution qui n'a pas pris en compte la réalité politique historique de la région, et qui crée forcément un conflit, en gros, avec la présence des militaires américains aujourd'hui et des militaires de l'OTAN. Vous avez une couverte sur une cocotte minute, mais cette cocotte minute continue de bouillir.
Bien, merci beaucoup, Nicolas Mirkovic, d'avoir évoqué cette histoire dramatique du Kosovo. Je rappelle votre ouvrage « Le martyr du Kosovo », qui est paru chez France Empire, dont les références peuvent être retrouvées sur le site internet de Conflit, site internet où vous pouvez également retrouver nos anciens numéros en format papier et en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.